J'ai rencontré la sociologue Aurore Merle il y a tout juste un an, en juin 2006, à la parution de son ouvrage « Étudiants chinois, qui sont les élites de demain ?». Ce petit livre de 110 pages fort intéressant, coécrit avec Michael Zanke et paru aux éditions Autrement, brosse un portrait de la génération des étudiants de l'après Tiananmen, cette génération d'enfants uniques dont les parents font d'énormes sacrifices pour financer leurs études, prônent l'individualisme, le nationalisme et la compétition à tout crin. Grand marché mondial de l'emploi oblige. Ce livre est le fruit de 4 années d'enquête menées sur le terrain dans les universités chinoises. Décryptée par Aurore Merle, la formation de ces futures élites ne laisse aucun doute sur la place que la Chine aura demain dans le monde. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. À l'heure où la réforme des universités françaises est à l'ordre du jour, il est tout à fait utile d'aller voir comment les choses se passent du côté de la Chine. Car accéder à l'université est réservé à une élite. En 2003, 17% seulement des 18-22 ans y avaient accès. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Li Jun, justement. Pour faire partie de l'élite universitaire, il faut réussir le très sélectif Gaokao. Ça doit pas être bien prononcé, mais je pense que vous aurez tous compris. C'est le concours national d'entrée à l'université. Réussir ce concours est un objectif fixé par les parents. Selon Aurore Merle et Michael Zanke, assurer l'entrée à l'université de leur enfant, tel est le rêve commun à des millions de familles chinoises. Ainsi, dès l'école primaire, les jeunes chinois sont soumis à une compétition intense. Il faut être le meilleur afin de rentrer dans le meilleur collège de la ville, puis dans le meilleur lycée de la ville, pour avoir les plus fortes chances d'accéder aux meilleures universités. Et puis, une fois qu'on est dans les meilleures universités, il faut passer les meilleurs concours pour arriver en Europe, voire aux États-Unis. La sélection se fait également par l'argent. Au début des années 1950, le pouvoir institue la gratuité de l'enseignement supérieur afin de rompre la tradition élitiste de l'enseignement supérieur. Le changement s'opère dès les années 80 avec l'introduction des frais de scolarité pour certains étudiants. Aujourd'hui, les prix varient en fonction des universités. Les universités les plus prestigieuses sont souvent les plus chères. Ça, c'est logique, et ça, il n'y a pas qu'en Chine. À l'université de Pékin, la plus connue, c'est-à-dire Tsinghua, je pense, il faut débourser l'équivalent de 500 euros par an, et ça, ce sont les chiffres de l'année dernière. 500 euros pour un Chinois, c'est quand même énorme. Hein. Une somme qui correspond, par exemple, au salaire moyen à Pékin est autour de 120-130 euros par mois. Donc, on a un petit peu une idée de ce que ça peut représenter dans le budget d'une famille. Les frais de scolarité varient également en fonction du choix des filières. Alors, elle en parlera tout à l'heure. Je vais laisser Aurore Merle parler des filières chaudes et des filières froides. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis je la laisse aussi vous parler du rôle du parti à l'université. Donc, on écoute Aurore Merle. Alors, qu'est-ce qui a changé en Chine depuis 89 et Tiananmen ?
Alors, il y a de nombreuses choses qui ont changé en Chine depuis 1989. D'abord, si on regarde, si on observe un petit peu l'aspect que donne la Chine aujourd'hui, on voit un pays en train de se développer à une vitesse fulgurante. On voit des grandes constructions dans les villes. Et ça, c'est pas 89, c'est pas la répression politique qui a permis ce développement économique, mais c'est juste après, en 1992, le lancement, en fait, l'accélération des réformes économiques. Et d'une certaine manière, c'est lié à 89, c'est-à-dire qu'en 1989, quand le pouvoir communiste réprime le mouvement des étudiants sur la place Tiananmen, il fait le choix des réformes économiques, mais sans réformes politiques. Et on voit aujourd'hui, donc, en Chine, un pays qui, d'une certaine manière, est un pays très développé, avec encore beaucoup de problèmes de pauvreté, d'inégalité évidemment, mais un pays qui se développe énormément, mais un pays qui, dans ses structures politiques, n'a pas du tout changé.
Quelles sont les caractéristiques de cette génération d'enfants uniques ?
Alors, cette génération d'enfants uniques, d'abord, parce qu'ils sont enfants uniques, ils ont été élevés avec souvent donc leurs parents, mais aussi leurs grands-parents qui s'occupent d'eux. Ils ont été un petit peu le centre du foyer familial. Et c'est assez intéressant de voir leur arrivée donc à l'université, puisqu'à l'université, ils se retrouvent entre enfants uniques dans des dortoirs, des chambres où on est à 4, 6 ou 8. Donc si vous mettez 8 enfants uniques dans une même chambre, vous pouvez imaginer un petit peu les problèmes de vie quotidienne qui peuvent exister, et surtout donc un problème de passage aussi à l'âge adulte, de de passage à une certaine responsabilité. Et d'une certaine manière, cette génération-là, elle est assez intéressante et elle a des aspects assez contradictoires, car d'une certaine manière, on peut dire que c'est une génération qui se voit et qui se veut individualiste. Enfants uniques, ils ont eu l'habitude d'être seuls, d'être tournés sur eux-mêmes. Et pour eux, l'individualisme, c'est une valeur positive. Et ça, c'est un grand changement par rapport à leurs aînés, qui voyaient dans le collectivisme peut-être une solution pour l'organisation sociale de la Chine. Donc cette génération est individualiste, donc avec tous les problèmes qui peuvent être liés à l'individualisme et qui peuvent parfois donc tourner à l'égoïsme ou autre chose, mais aussi d'une certaine manière, cela permet d'avoir des ambitions individuelles, d'avoir des dynamiques et des projets personnels. Et moi, je dirais qu'il y a du positif et du négatif.
Alors justement, quel regard porte cette génération sur la politique et l'économie de leur pays ?
Alors, le regard, c'est difficile en fait de résumer pour 17 millions d'étudiants chinois le regard qu'ils peuvent porter sur leur génération et aussi donc sur leur pays, que ce soit au plan politique ou au plan économique. Mais d'une certaine manière, on peut quand même repérer une rupture, si on parle en termes de génération, par rapport à la génération précédente, c'est-à-dire par rapport à la génération des étudiants qui avaient donc mené ce mouvement de protestation et en 1989. Si on compare ces deux générations-là, on peut voir que la nouvelle génération d'enfants uniques, d'une certaine manière, ne se sent plus responsable de l'avenir de la Chine. Si on regarde dans l'histoire des mouvements étudiants en Chine, on voit qu'en fait depuis le mouvement du 4 mai 1919, qui est donc un mouvement en fait d'étudiants pékinois protestants contre le traité de Versailles qui attribuait les concessions allemandes au Japon. Donc depuis ce mouvement-là, qui était un mouvement nationaliste, qui donc contestait les décisions des Occidentaux à la fin de la Première Guerre mondiale, on a en fait une figure de l'étudiant qui se construit et qui est celle d'un étudiant à la fois donc béni du ciel, donc extrêmement favorisé dans son statut puisqu'il peut accéder à l'université et qu'il constitue une minorité, et de l'autre côté, un étudiant qui est responsable de sa nation, qui est responsable de l'avenir de son pays et qui s'engage. Et que ce soit en 1919, mais si on regarde la révolution culturelle, d'une certaine manière, les gardes rouges ou les jeunes instruits avaient cette idée-là, même si ça a pu tourner en une tragédie, ils avaient l'idée de renverser la bureaucratie, c'était aussi pour l'avenir du pays. Et si l'on regarde en 1989, le mouvement des étudiants était aussi dans cette lignée-là. Après la répression en 1989, à partir du moment où le pouvoir tire et tue des étudiants, cette figure est brisée. Et donc la nouvelle génération, elle ne se sent plus porteuse de ses valeurs nationales, même si elle peut être nationaliste. Et donc elle aspire plutôt à son développement individuel, etc. Alors si l'on regarde du côté politique et économique, pour se développer individuellement, il faut une stabilité politique et économique pour pouvoir mener à bien ses études, créer son entreprise, travailler sereinement. À quoi on aspire ? Eh bien, on aspire justement à un certain conservatisme au niveau politique et à la poursuite des réformes économiques telles qu'elles sont menées aujourd'hui.
Comment se fait la sélection d'entrée à l'université ?
Alors, la sélection d'entrée à l'université est extrêmement rigoureuse, puisque si l'on regarde les taux d'entrée à l'université, ils tournent à peu près à 50% aujourd'hui. Extrêmement rigoureuse, et donc elle est fondée sur un concours d'entrée à l'université, qui est un concours qui se déroule au niveau national, mais qui varie extrêmement selon les régions où les candidats passent le concours. Et pour entrer, donc ce concours, en fait, repose sur la hiérarchie des universités. C'est-à-dire qu'on a, contrairement au cas français, où en France, par exemple, on va avoir d'un côté le système des grandes écoles, qui effectivement est une hiérarchie, mais de l'autre côté, le système des universités, où il n'y a pas de, ou peu de sélection à l'entrée, pas de hiérarchie. En Chine, tout fonctionne dans le même système. Et donc, on va avoir une hiérarchie des universités, donc avec au sommet, par exemple, les universités de Pékin et de Tsinghua, qui sont considérées comme les plus grandes et les plus prestigieuses universités en Chine. Et donc, différents groupes d'universités, selon qu'ils dépendent de l'État ou des municipalités ou des provinces. Et à partir de là, pour les étudiants, ce qui est vraiment compliqué dans ce système, c'est qu'il faut non seulement être très bon, avoir une très bonne note aux examens, mais il faut aussi avoir une stratégie. Pourquoi ? Parce que les étudiants doivent formuler des vœux avant de passer le concours. Donc ils formulent des vœux. Voilà, je voudrais cette année, mon vœu c'est d'aller à l'université de Pékin. Si j'ai la note requise pour rentrer à l'université de Pékin, peut-être, donc, comme mon vœu était d'entrer à l'université de Pékin, je pourrais rentrer. Mais si j'ai une très bonne note, mais je n'avais pas fait le vœu d'entrer à l'université de Pékin, je ne peux pas y aller. Donc, il faut s'évaluer, savoir si on est très bon, moyen, pas très bon, quelle est l'université qui correspond à son niveau, et surtout anticiper sur les stratégies des autres étudiants. Est-ce que cette année, la plupart des très bons, des excellents étudiants vont choisir l'université de Pékin ou pas ? Sachant que tout dépend aussi de l'endroit où je passe le concours. Si je suis pékinois, j'ai plus de chances de rentrer dans une université pékinoise.
Alors, ce concours, il s'appelle le Gaokao, il me semble. Il est national ou c'est par université ?
Alors, c'est très compliqué, c'est-à-dire que on peut dire d'une certaine manière qu'il est national dans le sens où toutes les universités exigent le passage du Gaokao pour recruter leurs étudiants. Maintenant, il est très local, d'abord en fonction des provinces qui ont des systèmes d'examen différents. Dans certains cas, on peut avoir 4 ou 5 épreuves, dans d'autres seulement 3. Et il est aussi, donc, après, vraiment local au niveau des universités, puisque c'est les universités qui vont fixer leur niveau d'admission selon chaque province. Par exemple, elles vont fixer leur propre quota. C'est-à-dire que l'université de Pékin va dire, par exemple, cette année, je vais prendre 15 étudiants de la province du Yunnan. Je n'en prendrai pas de la province du Guizhou, ce sera l'année prochaine. Mais je vais en prendre 50 de Pékin. Et à partir de là, sont fixées des notes minimales pour chaque province d'admission à l'université.
C'est un système bien complexe. Il y a 17% des étudiants qui vont à l'université. C'est quand même une élite, parce que c'est très très peu.
Oui, c'est très très peu. C'est effectivement sur la classe d'âge des 18-22 ans. Donc aujourd'hui, les étudiants représentent seulement 17%. Il faut voir qu'il y a quelques années, il y a 10 ans à peu près, ils ne représentaient que 3%. Donc c'est une minorité, mais il y a une volonté de la part du pouvoir chinois d'ouvrir d'une certaine manière les universités et donc de permettre à davantage d'étudiants de rentrer, d'accéder à l'enseignement supérieur.
Que représente l'université pour les familles chinoises d'aujourd'hui ?
C'est vraiment le rêve de toutes les familles chinoises, que l'on soit en ville ou dans les campagnes. Alors bien sûr, on n'aura pas du tout les mêmes chances d'accéder à l'enseignement supérieur, mais même, je dirais même, dans les endroits les plus reculés de Chine, c'est un rêve, alors peut-être inaccessible, mais c'est vraiment, disons que pour les familles chinoises, c'est vraiment l'idée d'assurer l'avenir de son enfant, et aussi d'assurer son avenir, l'avenir de la famille en général, puisque quand l'enfant sera adulte, il devra s'occuper de ses parents, parfois les héberger, les entretenir, etc.
Combien coûtent des études à l'université ?
Alors là, c'est pareil, ça dépend en fait de chaque université. Donc, disons en moyenne, c'est un petit peu difficile parce que tout dépend du statut des étudiants. Il y a des étudiants considérés comme étudiants publics et recrutés par le concours. Donc eux, en général, ça peut être par exemple à l'université de Pékin, le prix pour une année, c'était environ 500 euros pour une année. Dans certains cas, ça peut monter à 1000 euros, voire même plus. Et puis, il y a aussi les étudiants qu'on appelle les étudiants qui se financent eux-mêmes, qui n'ont pas réussi le concours, mais qu'on admet quand même à l'université moyennant finance. Et eux auront un autre diplôme à la fin de l'année.
Et ils auront payé beaucoup plus cher.
Exactement.
Ah ouais, c'est pas mal pour financer l'université. Est-ce qu'il y a des bourses ?
Alors, il y a des bourses. Il y a eu toute une réflexion, d'ailleurs, sur les bourses dans les années 80, c'est-à-dire est-ce qu'on fait des bourses d'excellence ou des bourses à critères sociaux ? Maintenant, elles sont... le système est vraiment très minoritaire. En tout cas, pour les quatre premières années à l'université, moi, je n'ai jamais rencontré un seul étudiant boursier. Par contre, concernant les formations en maîtrise et en doctorat, pour l'instant, elles restent ce qu'on appelle publiques. Et donc, les élèves peuvent payer une modeste somme pour les dortoirs ou pour les cours, mais on considère qu'ils sont encore pris en charge, c'est-à-dire, on dira pas boursiers, mais d'une certaine manière, ils sont encore pris en charge par l'État qui a investi dans leur formation pour s'en servir après.
Mais alors, qui va à l'université ?
Eh bien, une minorité, souvent de plus en plus, je dirais même, d'enfants qui ont grandi en ville, la plupart du temps. Parce que c'est vrai que quand on vient d'un village, bien déjà l'accès à l'enseignement primaire et secondaire est problématique, puisqu'il faut rappeler qu'en Chine, l'école est obligatoire mais pas gratuite.
Alors depuis combien de temps on la paye cette école ?
Depuis, je ne sais pas, je dirais depuis une dizaine d'années en fait, on a... C'est-à-dire que... Au début des années 80, donc quand le pouvoir lance les réformes économiques, il y a un peu des expérimentations qui sont menées, c'est-à-dire on commence à faire payer dans certaines universités ou pas. Et puis il y a eu un gros débat concernant les universités à la fin des années 80 parce qu'on s'est rendu compte que les étudiants qui pouvaient entrer par le concours universitaire et qui ne payaient pas à l'université étaient souvent les étudiants des classes les plus favorisées. Et donc les étudiants des campagnes ou moins privilégiés, eux, payaient pour entrer à l'université. Donc suite à ce débat-là, on a décidé de proposer donc, des droits de scolarité pour l'ensemble des étudiants.
Ça n'a pas vraiment réglé le problème, mais bon. Comment se passe la vie sur un campus chinois ?
Alors la vie sur un campus chinois, je pense que pour un étudiant français, elle est vraiment très surprenante. Parce qu'en France, on n'a pas vraiment de vie de campus.
On n'a pas de campus du tout.
Oui, disons qu'on n'a pas de campus avec les logements. Donc
on en a peu, en tout cas.
Voilà, on a peu de campus qui fonctionnent un peu comme en Angleterre ou aux États-Unis. Et donc en Chine, voilà, c'est vraiment des campus... à l'anglo-saxonne, donc des villes dans la ville où vous trouvez tout. Donc vous y dormez, vous avez donc vos dortoirs, vous y mangez, vous avez toute une série de cantines, restaurants, petits restaurants, etc. Vous y trouvez parfois un hôpital, des supermarchés, une poste, des banques. Donc c'est vraiment comme une ville. Et vous y trouvez aussi beaucoup d'espaces verts. Certains campus en Chine sont vraiment des endroits très agréables, très reposants, avec des jardins, etc.
Il y a des terrains de sport aussi.
Oui, il y a des terrains de sport, parfois des piscines. Donc vraiment, tout est conçu de manière assez fonctionnelle. L'étudiant peut mener sa vie sans sortir une seule fois de son campus. Après, ce qui est intéressant à voir aujourd'hui, c'est que en regardant les campus chinois, on a un peu une image des différentes périodes historiques de la Chine. Parce que certains campus ont été créés au début du XXe siècle. Et donc, soit dans un style très traditionnel, très chinois, avec des petits pavillons, des pagodes, etc., ou dans un style plus occidental, avec donc des constructions qui sont un peu les répliques des grandes universités américaines. Donc ça, c'est pour la période, le début du XXe siècle. Et puis, ben, on a toute la période communiste. Alors, avec ces architectures massives, quand il faut représenter les bureaux de l'administration, et puis ces constructions, ces petits immeubles à 3-4 étages en briques rouges qui servent souvent de dortoirs ou de lieux de classe. Et puis voilà, maintenant on a aussi la Chine du 21e siècle, la Chine moderne, qui elle est faite d'aluminium et de verre, de grandes tours, etc.
Donc il y a toute l'histoire de la Chine dans l'architecture des campus.
Exactement.
C'est quoi les filières chaudes et les filières froides? J'ai appris ça dans votre ouvrage, ça m'a beaucoup étonnée.
Alors, filières chaudes et filières froides, en fait, c'est pour désigner les filières qui sont attractives et celles qui le sont moins. Parce que pour revenir un petit peu sur le concours, quand je fais mes vœux en tant qu'étudiant, quand je fais mes vœux pour entrer à l'université, donc je choisis mon université, mais je choisis aussi ma filière. Et selon les filières, il faut les notes exigées pour être admis sont différentes. Par exemple, à l'université de Pékin, les filières les plus attractives, ça va être l'économie, le business, le droit, l'informatique, etc. Et donc, pour rentrer à l'université de Pékin dans ces filières-là, il faut vraiment être le meilleur des meilleurs, avoir des notes incroyables. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a des filières effectivement qui sont bien moins attractives, d'autant que certaines filières sont un peu héritées de la période où la Chine s'inspirait beaucoup de l'Union soviétique. Donc on a des filières pour être spécialiste, ingénieur, spécialisé donc dans tout ce qui est activité forestière ou activité pétrolière, etc., ou activité minière. Et ces filières-là sont tellement spécialisées qu'elles sont vraiment froides, parce que les étudiants savent très bien qu'à terme, soit elles ne donnent pas accès à un travail, et donc au chômage, soit il est impossible en fait de rebondir et de trouver. On est tellement spécialisé qu'on peut pas trouver quelque chose de plus général. Donc c'est très important la filière qui est choisie, même si aujourd'hui on a tendance, les étudiants ont souvent tendance à dire, ce qui compte le plus c'est quand même l'université. Si on est dans une très bonne université qui a une très bonne réputation, peu importe qu'on ait fait des filières froides, on trouvera du travail, parce que les entreprises, elles regardent que l'université de laquelle on vient.
Oui, tout à fait. Regarde aussi la motivation d'abord. Le salaire moyen à la sortie de l'université.
Alors, salaire moyen, certaines enquêtes ont été faites et ont été donc expliquées, enfin ont été donc rendues publiques. Et le salaire moyen, donc pour un premier travail pour un étudiant chinois, actuellement, il est de environ 150 à 200 euros par mois. Alors, c'est une moyenne. Et donc, il faut bien imaginer qu'entre un étudiant qui sort de la meilleure université de Pékin et un étudiant qui sort d'une université vraiment bas de gamme, dans une zone reculée, ils ne toucheront absolument pas le même salaire à la sortie de l'université. Maintenant, cette moyenne-là, elle indique quand même quelque chose. Si on regarde sur 10 ans, le salaire moyen des étudiants, donc lors de leur premier emploi, a eu tendance à baisser. Donc ça, on voit un début de dévalorisation des diplômes, et certains journaux ont même choisi des titres comme « Salaire d'un étudiant, c'est la même chose que d'avoir un salaire de femme de ménage ». Donc il y a un vrai problème de reconnaissance de la valeur du personnel qualifié, et donc de la valeur des études. Et pour l'instant, c'est un petit peu difficile de penser de manière prospective, mais il y a ce problème du salaire, il y a ce problème du chômage aussi qui commence à toucher les jeunes. Donc à l'avenir, c'est aussi une population qui était une élite, qui faisait partie d'une élite qui commence à être fragilisée. Ça peut être intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochaines années.
Mais le salaire moyen du Chinois qui ne sort pas de l'université, pour pouvoir comparer?
Alors, le salaire moyen du chinois qui ne sort pas de l'université, en fait, ça dépend où on se trouve, si on se trouve à la campagne ou en ville. En ville, dans les grandes villes, il est considéré comme autour de 100 euros par mois.
Oui, donc finalement, l'étudiant gagne quand même un tout
Un
petit
petit
peu
peu plus.
plus. Quel rôle joue le parti à l'université?
Alors, le parti, il joue un rôle non négligeable par sa structure politique déjà qui est présente à l'université. On peut, quand on est étudiant, être recruté par le Parti communiste et aujourd'hui c'est plutôt un signe d'excellence scolaire. Donc si on est très bon, ça peut être intéressant de devenir membre préparatoire puis membre du parti. Mais il est aussi présent sous la forme de ces organisations de jeunesse, de ces associations. Il n'y a aucune association dans les universités qui soit indépendante. Toutes les associations, en fait, dépendent soit de la Ligue de la jeunesse, soit d'une autre structure, mais qui sont toutes liées au Parti communiste. Donc c'est assez... voilà, il faut le savoir, en tout cas, quand on... Même si après... On trouve toutes sortes d'associations sur les campus, des associations sportives, culturelles, etc. Malgré tout, elles doivent avoir l'autorisation de cette Ligue de la jeunesse. Donc de cette manière-là, le parti a un rôle plutôt important. Plus généralement, à l'université, les cours de politique sont encore de rigueur. On a commencé dès l'école primaire, et bien on continue jusqu'à l'université. Ils sont obligatoires. On y apprend, on y redécouvre, on approfondit les politiques, donc les grandes pensées communistes, que ce soit donc marxiste, léniniste, mais aussi donc les pensées de Mao Zedong, les théories de Deng Xiaoping. Donc l'artisan de la réforme économique chinoise, et maintenant les trois représentativités de Jiang Zemin.
Quel est le pourcentage d'étudiants qui adhèrent au parti?
Le pourcentage d'étudiants qui adhèrent au parti...
Finalement, on ne sait pas.
C'est un petit peu difficile, en fait, de vous dire ça, mais ce qu'on peut dire, je ne pourrais pas vous citer de chiffres, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est extrêmement minoritaire. C'est-à-dire qu'en fait, le parti lui-même est très exigeant dans sa sélection. Donc, pour un étudiant, quand bien même il souhaiterait ardemment entrer au parti, ce n'est pas sûr du tout. Il faut d'abord avoir été repéré par un professeur de sa classe, qui est membre du parti et qui donc va vous proposer d'adhérer au parti. À la suite de cela, vous allez avoir un tuteur et pendant un an, vous allez suivre un certain nombre d'activités de préparation. Ces activités, ça peut être des films qu'on doit regarder, des débats qu'on va avoir avec d'autres membres du parti. Et tout cela est évidemment agrémenté de lettres à produire, à écrire sur ses pensées et sur sa vie quotidienne. Alors souvent, les étudiants sont un peu ennuyés par cet exercice fastidieux. Donc il existe, on trouve maintenant sur Internet, des lettres types. Qu'il suffit de télécharger, on change les noms, on change les lieux, et on a le produit de ses pensées directement copié depuis Internet.
Ah mais ça va pas marcher très longtemps, ça. Ça veut dire quoi, le marxisme, pour eux?
Le marxisme, pour eux, c'est... Pour cette génération-là, qui est née donc, dans l'ère des réformes, pour elle, le marxisme, c'est quelque chose... Qui appartient au passé, qui souvent est ennuyeux puisqu'on est quand même obligé de l'apprendre, au moins dans une certaine version édulcorée. Donc Marx, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de ces cours de politique, qui relève du passé, qui n'a plus véritablement de pertinence pour analyser la situation de la Chine et pour penser aujourd'hui en Chine.
Est-ce qu'on est vraiment libre à l'université?
Non, on n'est jamais complètement libre à l'université. D'abord, si on regarde les dortoirs, par exemple, il y a quand même des gardiens à l'entrée des bâtiments. Alors, dans certains dortoirs, il n'y en a plus, mais il y a quand même des cartes magnétiques pour ouvrir les portes. Donc, on sait très bien, on connaît très bien les horaires des étudiants. On n'est pas libre. C'est compliqué, c'est-à-dire que on trouve certains espaces de liberté à l'université, et peut-être plus qu'ailleurs, qui sont des espaces qui ne sont pas complètement publics. Par exemple, si on regarde les rapports entre professeurs et élèves, on trouve souvent des professeurs qui animent des séminaires de lecture ou des réunions régulières avec des étudiants, mais avec des étudiants qu'ils ont choisis. Donc on est là dans un rapport un petit peu semi-informel, semi-public, où on va pouvoir avoir une certaine liberté. Mais et dans les salles de cours, en fait, ça dépend des salles. Dans certaines salles, les professeurs choisissent d'avoir une certaine liberté dans leurs paroles. Ils peuvent parler de 89 ou au moins l'évoquer. Ils peuvent dire des choses critiques à l'égard de la politique ou à l'égard de l'économie. Parce qu'ils savent qu'ils sont là aussi, même si c'est un espace public, ça ne touche que le public étudiant. Ça ne touche pas l'ensemble de la population chinoise. Donc voilà, je dirais une certaine liberté, mais qui est toujours, qui peut toujours être menacée.
Est-ce qu'il y a une culture underground ?
Oui, il y a une culture underground, forcément, je dirais d'une certaine manière, dès qu'il y a contrôle, dès qu'il y a dictature, on a toujours une culture underground, et en Chine aussi. Et en Chine, on pourrait dire qu'il y a différents types de culture underground, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des cultures underground politiques, des étudiants qui sont très concernés par la politique, qui vont essayer d'avoir des informations sur des choses interdites sur le plan politique en Chine. Donc ils vont télécharger des choses, ils vont se renseigner, ils vont débattre. Vous avez aussi une culture underground artistique, que ce soit donc au niveau des, par exemple, tout le cinéma chinois contemporain qui souvent a grandi en dehors des salles de cinéma officielles. Eh bien, certains étudiants passionnés de cinéma vont trouver les DVD de ces films underground, vont les projeter parfois dans des petits cafés, etc. Donc vous avez toute une culture au sein de l'université qui est vraiment intéressante.
Est-ce qu'on peut y déceler les influences de l'Occident à l'université ?
Bien sûr, on peut déceler l'influence de l'Occident. Si on regarde tout simplement les jeunes étudiantes chinoises, eh bien elles connaissent L'Oréal, elles connaissent toutes les marques occidentales et parfois même mieux que nous, et elles les utilisent. Donc on a cet aspect-là vraiment un peu superficiel qui est de l'ordre de la consommation. Et puis après, ben vous avez effectivement toute donc que ce soit au niveau culturel ou au niveau économique, on regarde beaucoup ce qui se passe à l'étranger et beaucoup ce qui se passe dans les pays les plus développés. Donc on est souvent surpris en Chine, à l'université, mais aussi en dehors de l'université, de la connaissance que les gens peuvent avoir de notre pays. Par exemple, ils savent qui est le président, ils connaissent les grandes périodes historiques de la France. Et il y a vraiment un décalage. Et ça, c'est vraiment, je pense, le côté... Il y a plusieurs facteurs. Déjà, le fait d'être un pays en voie de développement. Eh bien, on regarde les pays qui ont réussi. On essaie de comprendre pourquoi. Donc forcément, c'est l'Occident. Et deuxièmement... parce que la Chine depuis les années 80 et donc le lancement de la politique d'ouverture et de modernisation s'est ouverte au monde. Et pendant la révolution culturelle, la Chine était tellement fermée qu'aujourd'hui, il y a vraiment une soif de connaissances parmi les anciennes générations et chez les jeunes, ça fait partie d'un rapport normal au monde. Je suis dans un... dans un monde qui est global et je me renseigne et j'ai des amis à l'étranger, etc.
Est-ce que vous connaissez le pourcentage des étudiants qui vont étudier à l'étranger ?
Le pourcentage, c'est difficile en fait de donner un pourcentage parce que les différentes sources ne sont pas forcément centralisées en fait selon les pays. Mais globalement, vous avez quand même, c'est un mouvement, si vous voulez, qui est à la fois massif aujourd'hui, alors qui peut débuter soit avant l'entrée à l'université. Je n'ai pas réussi à rentrer à l'université, je tente ma chance à l'étranger. Soit pendant qu'on est à l'université, au bout de 4 ans, donc une fois qu'on a un diplôme universitaire chinois, on peut être tenté par une maîtrise ou un doctorat à l'étranger. Et souvent, c'est une très bonne stratégie, une stratégie qui va être payante au retour, puisqu'on revient avec ce prestige d'avoir été étudié à l'étranger. Mais si on regarde, ce qui est intéressant de voir, c'est que le départ vers l'étranger se maintient, est stable ou croissant même, mais le retour, qui était vraiment presque inexistant dans les années 80, ça commence à être intéressant pour un étudiant chinois de rentrer en Chine après des études à l'étranger.
Mais ça, c'est nouveau. C'est quoi la nouvelle gauche chinoise ?
Alors, la nouvelle gauche chinoise, Alors, c'est pas un mouvement politique vraiment, parce qu'en Chine, on ne peut pas avoir de mouvement politique, mais on pourrait dire que c'est un courant, c'est une tendance qui est animée par certains intellectuels chinois, mais parfois en dehors de la Chine, à Hong Kong par exemple. Et la nouvelle gauche, en fait, bon, ça s'inspire, le thème s'inspire de la nouvelle gauche américaine. C'est une gauche qui se veut critique à l'égard de la mondialisation. Donc une gauche qui se veut, par exemple en Chine, critique à l'égard des entreprises multinationales qui viennent s'installer en Chine. C'est une gauche qui est assez nationaliste. On a peur que l'étranger, l'Occident, s'accapare les ressources chinoises. Et c'est une gauche aussi qui, culturellement, veut résister à la domination occidentale, à l'hégémonie américaine, par exemple, et qui dit culturellement, nous sommes chinois. Et la culture chinoise est très importante. Donc c'est un mouvement qui prône aussi le retour à une certaine tradition, à des valeurs chinoises. Maintenant, le problème de cette gauche-là, qui présente des aspects fort intéressants, que ce soit intellectuellement ou politiquement, leur problème, c'est que de cette manière-là, on évacue complètement la réflexion sur le pouvoir communiste, et sur la dictature politique en tant que telle. Si tout est la faute de l'Occident, si tout n'est qu'un problème économique et culturel, où est le politique ? Il y a quand même en Chine un problème de liberté qui n'est pas vraiment pris en compte par cette gauche-là.
Alors, ces élites de demain, quelle Chine elles souhaitent vraiment ? Enfin, en dehors de la nouvelle gauche, justement.
Bien, elles souhaitent une Chine puissante, une Chine qui enfin ait sa place au niveau international. Ça, c'est vraiment une dimension très très forte chez les étudiants. On trouve parfois, par exemple, des étudiants qui vont se montrer très critiques sur leur gouvernement, sur la politique interne du gouvernement. Ils trouvent, par exemple, que les politiques à l'égard des étudiants, etc., sont très mauvaises, que le gouvernement est trop répressif. Et si on leur demande, mais au niveau international, qu'est-ce que vous en pensez ? Notre gouvernement est trop faible. Notre gouvernement ne prend pas assez de mesures dissuasives, n'est pas assez énergique sur la scène mondiale. Donc parfois, le danger, c'est que cette jeunesse-là, et plus généralement même une grosse partie de la population chinoise, ait des envies et des aspirations qui débordent largement les politiques internationales du gouvernement. On voit dans certains cas le gouvernement chinois être tout à fait neutre politiquement ou de manière diplomatique, prendre des positions très nuancées, alors que la population aura des positions vraiment très fortes, très exagérées, très critiques. On le voit dans le cas du Japon, par exemple, quand le gouvernement chinois a toléré, autorisé, voire poussé à des manifestations donc d'étudiants il y a 2 ans contre le Japon, il s'est vite vu dépassé par l'ardeur des étudiants à critiquer le Japon. Donc il y a tout un jeu d'utilisation du nationalisme des étudiants qui peut se révéler aussi dangereux à certains moments parce que le nationalisme des étudiants est très fort et ils aspirent vraiment à une Chine très puissante.